Et vous écoutez France Culture. Le monde du rêve et de la fantaisie, qui devait être aléatoire, au moins par négligence, révèle au bout du compte une pensée rigoureuse et si délirante paraît-elle, d'une rectitude à peu près sans écart. Jacques Abeille, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre à Libourne ce samedi pour y rencontrer l'écrivain et peintre Jacques Abeille, homme liche de Nerval et des petits romantiques français, disciple de Breton et des surréalistes, écrivain au parage d'un Grac, d'un Pierre de Mandiargue ou d'un Marcel Brion. On lui doit avec le cycle des contrées une des œuvres phares du fantastique et du merveilleux francophone. Ami de Pierre Molinier, il est aussi sous le nom de Léo Barthes, un de nos grands conteurs érotiques. Les mystères de Libourne, c'est ce soir dans Mauvais genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre qui ce soir va à la rencontre d'un personnage absolument fascinant que l'on souhaitait rencontrer depuis longtemps et la rencontre s'est enfin faite grâce à vous Céline Duchesne et bonsoir.
Bonsoir François.
Alors Jacques Abeille, vous l'aviez déjà rencontré, vous nous aviez précédé.
Voilà, je l'avais rencontré l'année dernière à l'occasion du documentaire que j'ai fait avec Laurent Polleret sur le peintre surréaliste, photographe érotique Pierre Molinier, parce que Jacques Abeille a été un compagnon de quelques années de Pierre Molinier. Et donc, c'était un témoin essentiel pour nous raconter la vie sulfureuse de Pierre Molinier. Il a d'ailleurs écrit un très joli livre à ce sujet qui s'appelle Pierre Molinier, Présence de l'exil, avec 6 textes qui ont été écrits entre 1966 et 2004, où il explique un peu le monde de Pierre Molinier.
C'est également un des très grands auteurs, je le rappelle, du fantastique et de fantasy, on pourrait presque oser le mot français, avec ce cycle des contrées qui contient pas moins de 9 romans, dont le plus célèbre est évidemment le premier, Le Jardin des statuaires, paru au tout début des années 80, et où justement il tente une sorte de grande rêverie à la fois architecturale, fantasmatique, où le naturel et l'artificiel, l'œuvre humaine et la puissance de la nature se marient en permanence. C'est véritablement à l'égal des œuvres de Mervyn Peake, de Tolkien, un des grands cycles européens de fantasy. Il va nous en parler, bien évidemment. Il va surtout nous parler, grâce à vous Céline, puisque c'est vous qui avez fait le voyage avec Laurent Polleret, de la manière dont, je dirais, l'organisme Abeille fonctionne, c'est-à-dire comment sa physiologie d'artiste se met au point et s'est créée au fil de ces décennies.
Oui, rien de mieux que de rencontrer les gens chez eux, surtout quand le jardin y est agréable, la maison tout autant. Et puis, peut-être en gardant en tête deux, trois choses, que c'est quelqu'un qui s'est rêvé ethnologue, et on va voir que cette dimension-là est très importante, quelqu'un qui a aussi fait des études de psychologie, de philosophie, de littérature, même s'il était agrégé d'art plastique, et on va voir que tous ces thèmes se retrouve dans sa pensée, dans ses textes et dans ses peintures aussi.
Il dit dans un entretien qui vient de paraître, je recommande évidemment le numéro à la revue La Femelle du Requin, je suis un ethnologue qui n'est pas parti. Et c'est nous qui sommes partis à la lecture de ces livres et c'est vous qui êtes partis, Céline, à la rencontre de Jacques Abeille, direction Libourne.
Jacques Abeille, nous voici dans un jardin qui pourrait avoir quelque chose de presque tropical avec ce bananier sur notre droite, avec un arbre. Alors moi qui ne suis pas très douée en arbres, je ne veux pas faire trop d'hypothèses. Qu'est-ce que c'est derrière nous?
C'est un érable de jardin, c'est un petit érable un peu abattardi qu'on rogne et que j'essaie de rogner le moins possible, mais parce que ça me chagrine de voir des moignons tronçonner.
C'est en tout cas le jardin de votre maison. Nous sommes là à Libourne, chez vous.
Qui est l'œuvre de Pauline, d'abord.
Pauline,
qui est ma femme.
Et je dirais qu'on ne voit même pas le ciel, tant toutes ces feuilles, tous ces branchages nous enveloppent. On est comme dans une sorte de petit cocon, comme ça, à l'extérieur. Est-ce que ce jardin, Jacques Abeille, est pour vous source d'inspiration dans votre écriture, par exemple?
Pas directement une inspiration, je ne suis jamais directement inspiré par des choses que je constate dans ce qu'on appelle en général la réalité. Il me soutient dans quelque chose de très important chez moi, c'est un sentiment animiste, c'est-à-dire que ces plantes, en ce moment même, je suis persuadé qu'elles m'entendent parler d'elles, il y a quelque chose qui se passe entre nous et l'ensemble de ce qui peuple notre environnement. Et je pense qu'il y a des échanges qui ne sont pas évidents, mais il y a quand on est bienveillant vis-à-vis de notre entourage, ça se ressent. Je suis persuadé que ces plantes sont exubérantes parce qu'elles sont heureuses de vivre avec nous ici. Et qu'elles me le rendent. Je pense qu'elles ont, sur moi, sur mon humeur, un effet bénéfique et généreux.
Et cette sensation que vous avez auprès des plantes, est-ce que c'est quelque chose que vous portez en vous depuis toujours ?
Oui, je pense. Je ne sais pas quand ça a démarré. Ça m'inscrit de tout mon cœur contre une sorte de matérialisme mécaniste. Je ne suis pas du tout idéaliste. Je ne crois pas du tout à l'au-delà. Je ne crois pas du tout à aucune religion. D'ailleurs, il n'y en a qu'une. C'est le monothéisme que je juge dévastateur. En revanche, je pense qu'on s'inscrit sur un lopin de terre. Je crois que de là émanent des mythes qui correspondent au site dans lequel l'homme est implanté, d'où il s'élève et s'élance en tout cas. Ça, c'est important. Ça, c'est une dimension vraiment de ma personnalité.
Il y a donc ce bananier qui est là, juste devant nous. Alors, il pourrait peut-être vous faire penser aussi à votre enfance, vous qui avez vécu à la Guadeloupe pendant quelques années.
Oui, il peut me faire penser à la Guadeloupe, bien sûr, où il y a des bananes. Il y avait, en tout cas, à l'époque où j'y étais. Mais je n'ai pas passé mon enfance en Guadeloupe. Hein. J'ai passé à peu près 2 années scolaires, ce qui est court. J'ai quitté ce pays, évidemment, avec la nostalgie inscrite dans mon cœur. Mais oui, ça m'a certainement marqué, mais je ne le mesure pas, je ne l'évalue pas. Sur un autre champ, ça m'a marqué, dans mes rêves. C'est ce qui fait que finalement j'ai eu une écriture, et qui est celle qu'on peut me connaître, dictée par le rêve, qui a la forme du rêve. Il s'agissait de capter du rêve, parce que je faisais une série de rêves, parce que j'étais très épris, très très épris, d'une jeune femme charmante qui n'a jamais eu avec moi de relation très complètement intime, mais qui était très affectueuse et qui s'est révélée inoubliable, qui surgissait dans mes rêves, qui s'est éloignée et que j'ai jamais revue. Elle a une petite notoriété, puisque c'est une actrice qui s'appelle, j'espère qu'elle s'appelle encore, Lucille Saint-Simon. Dans mon sommeil, je retrouvais Lucille. Et j'étais évidemment, il fallait surmonter le réveil qui faisait tout éclater en me laissant un sentiment de perte irrémédiable. Or, ce qui était tout à fait douloureux, c'est que je me suis appliqué à faire des rêves, des récits de ces rêves, et ça ne marchait pas. Le récit soigneux, méticuleux, fidèle, scrupuleux, très honnête, les mots ne restituaient pas une présence, mais au contraire un sentiment d'absence et par conséquent de deuil. Et le jour où je n'ai pas eu un rêve à raconter, eh bien, je suis entré dans l'écriture qui est la mienne. C'est-à-dire, je me suis aperçu que pour ma part, je rêvais en mettant un stylo sur une page et en ne préméditant pas ce que je faisais. Et je me suis aperçu que était venue, de manière irrésistible, une narration qui était en tout point semblable à ce que Freud appelle un rêve d'enfant. C'est-à-dire un rêve immédiatement traduisible comme réalisation d'un désir. Et ça a été la première chose. Alors, j'écrivais bien beaucoup avant, mais c'était le premier texte que j'ai publié avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Régine Deforges. Voilà.
La crépusculaire,
premier texte. La crépusculaire.
Un texte érotique.
Ben oui, mais c'était la spécialité de Régine Deforges, qui reprenait un peu les audaces de Jean-Jacques Pauvert, avec qui elle avait partagé un certain nombre de choses, qui l'avait certainement formée à la beauté des livres, à leur présentation, et qui avait beaucoup d'audace, une femme charmante, qui avait de très bonnes idées, mais qui n'était pas du tout une gestionnaire, hein, alors pas du tout. Donc elle a fait 2 fois faillite, Et la première fois, sa maison d'édition s'appelait L'Or du Temps, emprunté à une citation d'André Breton, Je cherche l'or du temps. Et puis une deuxième fois, simplement, les éditions Origine de Forge, qui ont de nouveau fait faillite au moment où on devait faire ensemble un autre livre.
Les jardins statuaires.
C'est ça, voilà. Elle se lançait dans la quête de ce qu'on appelle le roman frénétique, les romans gothiques anglais. Et au moment où elle allait mettre les jardins statuaires dans cette collection, sous presse, elle a dû abandonner parce que c'était de nouveau la faillite qui a emporté et la maison d'édition et une très belle librairie qu'elle avait également à Paris. Voilà, regardez si c'est beau là, la plante, la fleur de bananier. Vous la voyez, regardez,
oui.
Cette tige presque obscène avec cet énorme gland qui laisse tomber ses pétales et à l'abri du pétale, vous avez des petites bananes avortées. Il y en a d'autres dessus. C'est le bananier.
Les jardins statuaires sont sortis finalement 6 ans après, en 1982. Et j'aimerais bien qu'on les convoque, justement, ces jardins statuaires, nous qui sommes donc dans votre jardin, face à la maison, et qu'on soit un petit peu comme le voyageur qui est dans les jardins statuaires et qui est guidé et qui découvre des domaines, qui découvre des manières de vivre, des habitudes. Si moi, j'étais par exemple ce voyageur et vous étiez le guide, on est là, juste à l'entrée de votre maison. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce domaine, de cette demeure? Qu'est-ce que cette maison vous apporte et vous transmet?
Eh bien, le temps a passé depuis l'époque où, dans les jardins statuaires, j'accueillais une voix dont je ne sais toujours pas d'où elle venait. L'expérience, par conséquent, vous dirait que ce qui est important, et qu'il ne faut pas oublier, comme j'ai failli le faire au début des jardins statuaires, qu'il y a les femmes. Et ce jardin-ci ressemble plus dans le domaine où on cultive les statues. Il y a un coin qui est le jardin des femmes, où ne pénètrent que les femmes. Et c'est peut-être autour de ce point obscur, presque vide, que gravite tout le reste. En tout cas, c'est quand j'ai pris conscience que je parlais de jardinier, etc., que je n'avais pas parlé des femmes, que le virage proprement romanesque s'est déclenché. Au départ, c'était une petite fable sur la création que je voulais rattacher à la croissance naturelle. Donc des œuvres d'art sortaient de terre, c'était des statues. Ce qui échappe peut-être beaucoup, c'est que c'est pas tout à fait la même chose dans le domaine des femmes, parce que les femmes, elles semblent s'occuper essentiellement de cultures vivrières. En fait, leur jardin est un potager. Or, ce potager est aussi un jardin d'agrément. Elles cultivent aussi des fleurs qu'elles mêlent les rosiers et les plantes tomates voisines. C'est-à-dire qu'il y a une mise en doute des mœurs, de la séparation de l'art pur et ce qu'on appelle des arts appliqués ou même des arts d'agrément qui sont un petit peu subalternes. Je crois qu'il y a une culture qui représente vraiment un équilibre entre les deux, ce sont les Japonais. Les Japonais sont capables de faire de la préparation du thé une cérémonie, de faire de l'arrangement d'un bouquet dans un vase une prestation artistique, etc. Ce que nous n'avons pas. Et par conséquent, même si on est fasciné par l'art des jardiniers qui retaillent, qui bouturent, qui aident à mûrir les statues qui s'élèvent du sol qu'ils cultivent, il y a peut-être toujours un point de doute. Est-ce que les hommes ne se sont pas trompés? Est-ce que c'est pas les femmes qui détiendraient le plus important? En ne séparant pas la beauté du vital, du nécessaire. Hein? Est-ce qu'il faut couper systématiquement l'utile de l'agréable? Voilà. Vous voyez, vous réclamiez, la pluie, elle arrive.
Je propose qu'on rentre dans la maison pour se protéger aussi de la pluie dans la véranda. Jacques Abeille, nous sommes dans la véranda de votre maison. Les maisons, les demeures, en souvent, ce sont des lieux qui sont importants dans vos romans. Alors, me viennent à l'esprit, par exemple, la demeure des lémures. Il y a aussi tous ces domaines que l'on croise dans les jardins statuaires. Est-ce que vous avez une relation particulière à votre maison?
Mais au lieu, en général, je suis beaucoup plus... Un peintre raté qu'un écrivain. Je me sens de moins en moins écrivain. J'ai jamais réussi à l'être tout à fait. Ou alors, peut-être que j'appartiendrais à une catégorie très particulière qui a peu d'adeptes, peut-être heureusement, qui serait celle des fous littéraires. Et une sorte de folie consentie parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. On est fou parce que on ne trouve pas la solution du labyrinthe dans lequel le sort nous a placés. Alors oui, je l'ai dit à propos du jardin, mais l'espace tient une place considérable chez moi, beaucoup plus que le temps. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'un peu aléatoire, d'un peu accidenté dans mes écrits, parce que je suis la vie de personnages, d'entités bizarres, de vivants constitués de mots, et j'ai besoin du cadre dans lequel ils vivent. Et avec lequel ils vivent dans un état d'osmose. Vous savez, la demeure des lémures, je me demande si vous imaginez ce qui m'a conduit à écrire une chose pareille. C'est justement la demeure. C'est une sorte de chagrin que j'éprouvais l'été sur les plages, à voir des coquillages qui ont perdu tout éclat, qui ont été rincés par le sel de la mer et qui ont été desséchés par leur insolation. Et quand il n'y a plus d'humidité, on est vraiment mort. Il n'y a plus rien d'humide. C'est l'exosquelette d'un vivant, un coquillage. Et c'est le rapprochement entre ce que je voyais des coquillages et dans certaines maisons abandonnées. Que manque-t-il à une maison pour continuer à vivre? Elle a besoin d'accueillir, d'être patinée par les humeurs, de l'humeur du vivant, de l'humeur de la vie. De là à imaginer une petite cendrillon qui vient répandre ses humeurs dans une demeure. Et quand on parle d'humeur féminine, bien sûr, on peut penser comme il fait une très grosse chaleur et qui dessécherait tout. Et cette petite... domestique qui s'affaire, transpire, donc il émane une humidité de son corps, mais il y a autre chose qui peut émaner d'un corps féminin. Il faut lui apporter du plaisir et à ce moment-là encore une autre humidité, donc ça donne ça met très facile d'imaginer ces choses-là. Je peux rêver, justement j'entre dans un rêve qui se développe en dessinant des mots, des signes, avec un stylo bille d'abord, très très rapide à l'époque. Et ça a donné un roman. Il y a un maléfice qui est à la fois froid et sec, ce qui est vraiment ce qui pousse à la mort, ce qui pousse à... Et il y a un surgissement de la vie. Et entre les deux, il y a un homme... Je me suis rendu compte, quand j'ai eu fini ce livre, que au fond, les destins masculins, c'est toujours, pour moi, c'est toujours la belle et la bête. L'homme, c'est une bête. Le conte de la belle et la bête est inspiré lointainement par un conte qui se trouve inclus dans un roman antique qui s'appelle L'Âne d'or d'Apulée, où il y a le conte d'Amour et Psyché. Ce conte a traversé les siècles, il a été remis en vigueur au XVIIe par La Fontaine, et puis par des dames au XVIIIe. Et la première, à ma connaissance, qui a structuré ce conte, c'est Madame de Villeneuve. Madame de Villeneuve qui adorait les contes de fées, les histoires, et qui est passée de mode parce qu'elle n'avait pas... Elle était intempérante, elle se laissait aller. Moi, ça m'attache beaucoup. Et elle a écrit donc une version antérieure à celle que nous connaissons, qui est beaucoup plus classique, beaucoup plus réservée. Et la belle, donc, c'est une petite qui se trouve condamnée à partager un séjour chez un monstre. Alors, ce qui m'a amusé beaucoup, c'est que la bête, ce qui caractérise ce monstre, c'est pas du tout le masque magnifique que Jean Cocteau avait conçu pour Jean Marais, dont les yeux splendides prennent un éclat extraordinaire dans cette sorte de grand visage de chat, que toute la grâce du félin. Dans la description de Madame de Villeneuve, ce que la bête a de monstrueux, vous qui êtes une femme, vous allez peut-être voir à quoi elle pensait, c'est que c'est une bête qui a une trompe, qui l'encombre, la pauvre bête. Et ça me paraît une bonne perception de ce qu'il y a de cruel dans la virilité. C'est-à-dire une sorte de membre en trop, très encombrant, dont on ne sait pas quoi faire. Et c'est de ça que la belle va libérer cette pauvre bête, cette pauvre bête.
Ce qui est le cas aussi dans la demeure des lémures, car grâce à cette petite bonne, c'est comme ça qu'elle est appelée dans le roman, grâce à l'érotisme de son corps, grâce au fait que petit à petit la chaleur du vent lui caresse le corps et qu'elle parte à la conquête de cet homme, elle va lui redonner une forme de vie et la maison va sortir du sortilège, la maison va enfin devenir vivante. Alors on est là, je crois, donc dans cette véranda, on est assis devant une table qui est votre table de travail. Est-ce que ça pourrait pas être le moment justement de nous lire un petit passage de La demeure des lémures ?
Ma petite servante, vous m'avez fait tant peur. Vous souvenez-vous ? J'étais assis de même dans l'ombre de la bibliothèque quand je vous ai vu surgir cette nuit-là. Vous ne soupçonniez pas ma présence et je ne vous attendais pas. Vous veniez pour contempler une image galante et pour lire, studieuse, le texte qu'elle illustre. Je me suis rendu compte que je n'avais laissé traîner ce livre que pour vous tenter et que, quand je vous ai vu dans les ténèbres, j'ai eu honte de ma conduite comme d'une vilenie. Je me suis arraché à ma fascination et j'ai quitté cette pièce pour me fuir moi-même. J'ai passé la nuit dans la fièvre à imaginer que j'étais le prêtre lubrique et vous, la belle pénitente, attendant l'intrusion du saint cordon. Elle lève le visage vers lui. Fais-le, retrouve cette impatience, abuse de ta servante. Il se lève du siège où elle pose la tête dans ses bras repliés. Il vient s'agenouiller à son tour derrière elle. Encore une fois, il s'émerveille de tant de soumission énamourée et de cet épanouissement obscène et princier. Débarrassé de son peignoir, il lui caresse les fesses de son bout de joie et en laisse le gland gonflé de l'iné, de ci, de là, glissé dans la longue entaille qui sépare les fesses. Le bulbe se pose par mégarde sur le creux froncé de l'entrée interdite. La petite bonne se cambre et frémit d'une crainte avide. Elle lâche un murmure. « Fais de moi ce qu'il te plaît. Fais-le. »
Jacques Abeille est publié sous le nom de Léobart. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus de ce Léobart ? Est-ce qu'il est plus vous que Jacques Abeille ? Est-ce que c'est votre double ? Qui est Léobart ?
Donc, mon premier écrit a été publié par Régine de Forges. Et à l'époque, je m'occupais un grade extrêmement subalterne, puisque j'étais auxiliaire, surveillant un pion dans l'éducation nationale. Il y a deux choses ont concouru. D'une part, je n'étais pas d'un courage exceptionnel, parce qu'on n'est pas d'un courage tout à fait héroïque quand on doit gagner sa vie. Et puis ensuite, je trouvais que j'avais toujours joué avec l'idée d'un pseudonyme et qu'avec un livre, livre érotique, ce serait une belle occasion d'utiliser un pseudonyme. Je choisis comme pseudonyme le pseudonyme de Bartleby. Bartleby, j'avais trouvé ce nom chez Melville, un ouvrage qui en anglais s'appelle Bartleby the Scrivener, et c'est à peu près the Scrivener est à peu près intraduisible. Le plus couramment, on traduit ça par écrivain. Mais en fait, c'est le commis aux écritures. C'est un subalterne à qui on donne la tâche de rédiger des minutes de notaire. Il doit avoir une belle écriture et puis c'est tout. Voilà. Et c'était ça que je voulais exprimer. Un scribe très modeste qui écrit sous une dictée. Bartleby, ça me paraissait pouvoir s'entendre comme Barthélemy. Et de Scrivener, on pouvait forger un mot d'apparence française, l'écriveur, et non pas l'écrivain. Ça m'allait. Donc est apparu un personnage qui s'appelle Barthélemy, l'écriveur. Alors Léobart, c'est le dessin du mot, c'est Léo, c'est juste si on ferme le C de l'écriveur, ça donne Léo. Et on garde ensuite la première syllabe, ça fait Bart. Voilà. Apparaît Léo Bart. Et mon identité de Jacques Abeille est une usurpation. Longtemps, pendant de longues années, je n'avais pas le droit de m'appeler Jacques Abeille. Je m'appelle Jacques Abeille parce que mon père, officier des forces françaises, s'est fait fabriquer, pour des motifs de résistance, un faux livret de famille sur lequel était porté son nom, Valentin Abeille, et le nom de jeune fille de sa maîtresse, car l'un et l'autre étaient chacun mariés de son côté. Et par conséquent, il n'avait pas le droit d'avoir légalement un enfant. J'étais, et jusqu'à l'âge d'environ 35 ans, j'ai été un enfant illégitime, à qui on ne s'est jamais privé de faire sentir cette illégitimité. Donc jusqu'à ma mort, même s'il y a eu un décret préparé par De Gaulle et Pleven, et qui est passé, je crois, sous le règne de Giscard d'Estaing, même si à cette époque-là, j'avais aux alentours de 35 ans, moi, c'était irréversible, vous pensez bien, toute une vie, une moitié de vie, dans l'illégitimité du bâtard, avec la fierté que cela implique, parce que c'est quand même un personnage romanesque. Seulement, si on est un personnage romanesque, est-ce qu'on a une vraie vie ? Ou est-ce que les personnages romanesques, eux, sont des êtres vivants qui méritent attention ? Et à ce moment-là, ça enchaîne toutes mes relations avec mes personnages, à qui j'ai le sentiment de devoir quelque chose, ils sont vivants, et je dois faire ce qu'ils me demandent. pour leur permettre de vivre, vous voyez. Ça ouvre des perspectives énormes. Mais en tout cas, je ne me sens toujours pas légitime comme écrivain, peut-être comme un modeste écriveur. C'est dans ce sens-là que je vous proposais de me définir plutôt comme un fou littéraire, mais parce que c'est très délirant comme position, intenable. Quelqu'un qui n'aura jamais sa place. De là, l'importance constante que j'accorde aux sites sur lesquels on se sent à sa place. Le sacré, c'est ça. C'est notre implantation dans un site qui est notre vrai lieu et dans lequel on peut dialoguer avec les réalités de notre environnement qui, objets inanimés, ont donc une âme. Donc, on pourrait dire que grâce à la complicité des éditions de la Musardine, je suis en train d'assumer non pas le nom que j'ai eu par accident et que pendant longtemps j'ai usurpé, mais celui que je me suis fait, au sens propre du terme, le vrai nom que je devrais porter.
Les deux sont là devant moi,
ouais.
À votre table de travail, en plus, ouais. Là où vous écrivez.
C'est quand même de là que tout est parti. C'est donc bien la racine cachée de ce que fait Jacques Abeille, les écrits de Léo Barthes. Et d'ailleurs, si je veux me retrouver, parce que je suis désespéré, déçu par ce que j'écris, ou je trouve que ça n'avance pas, j'écris un passage érotique complètement délirant, où je me lâche, comme on dit. Et à ce moment-là, je renoue avec le roman de Jacques Abeille. Et c'est un rythme. C'est-à-dire renouer avec les sources du rêve. Ça ne se traduit pas nécessairement dans des termes freudiens, mais c'est certainement, pour moi, la source de toute créativité.
Le rêve me fait penser aussi, Jacques Abeille, à la relation que vous avez entretenue et que vous entretenez toujours avec le mouvement surréaliste. Est-ce que, peut-être qu'en allant dans votre bibliothèque, on pourrait regarder quelques ouvrages qui pourraient nous renvoyer au surréalisme et vous pourriez nous raconter votre relation. Comment est-ce que vous avez rencontré le groupe surréaliste à Bordeaux et qu'est-ce que la rencontre avec le surréalisme vous a permis ?
Deux choses. D'abord, c'était pour moi la continuité avec quelqu'un qui ne m'a jamais trahi et c'est avec lui que s'épanouit ma passion des livres. C'est Gérard de Nerval. Voilà. Alors, Gérard de Nerval est un personnage extrêmement curieux. C'est un poète exquis. Au moins, dans la partie dans les textes qu'il a écrits après ses bouffées délirantes qui se sont jouées sur deux épisodes et dont il a fait la narration avec Aurélia. Ça me fascinait. Et puis, c'est un écrivain qui, d'une part, souffrait de l'absence de sa mère qui était morte, et c'était mon cas. Ma mère n'était pas morte, mais elle était hors de vue, et je souffrais de ne pas savoir de qui j'étais issu, d'une part, et d'autre part, Aurélia renvoie à cette espèce d'amour impossible qu'il éprouvait pour une actrice qui s'appelait Jenny Colon. Donc, je sentais une communauté de destin. Et il me semblait que je vais reprendre les choses où les avait portées Nerval, en essayant de faire un tout petit peu mieux. Faire un tout petit peu mieux, c'était est-ce que j'arriverai à ne pas me suicider ? Parce que vraiment, c'est tout ce que je peux faire dans l'état où je me sens. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il faudrait tâcher aussi de ne pas mourir puceau, parce que ça serait quand même manquer une dimension à la vie. Le pauvre Gérard s'est suicidé, et selon toute probabilité, il n'a jamais réussi à avoir une relation charnelle avec une femme. Il était beaucoup trop timide, beaucoup trop anxieux, il était paralysé. Alors qu'il était très sensible à l'érotisme, parce que le Landor d'Apulée qui proclame lire pour des motifs initiatiques, la grande déesse, le culte d'Isis, etc. Il y a aussi toute la dimension érotique assez vigoureuse et perceptible. Il n'est pas possible que ça ne l'ait pas intéressé. Et de même, l'autre écrit, il y en a bien d'autres dont il parle, qui est le diable amoureux de Jacques Cazotte, est aussi beaucoup moins évident que Landor, mais c'est aussi un roman fantastique, bien sûr, mais imprégné d'érotisme.
Jacques Abeille, on pourrait passer devant votre bibliothèque et peut-être repérer quelques titres.
Si vous voulez.
Premier visage que je vois dans cette bibliothèque, c'est celui de Gérard Nerval. On peut quand même rappeler, Jacques Abeille, que votre ouvrage « Le veilleur de jour » est dédié à Gérard de Nerval, votre ami intime. Je crois que c'est la formule que vous avez utilisée. Et il est là, juste devant nous.
Oui, il est là, parmi les surréalistes. Hein. Alors, il y a en même temps des surréalistes et des gens qui s'en sont écartés. Par exemple, ici, toute cette série, c'est une dame pour qui j'ai beaucoup d'affection. C'est Gisèle Brassinos, qui figurait d'ailleurs dans l'anthologie de l'humour noir, mais seulement par ses poèmes. Or, elle a continué à écrire des proses, c'est en même temps un poète, une conteuse que j'aime beaucoup. Là, vous avez Maurice Hine, le grand précurseur des études sur Sade. Ici, vous avez l'anthologie des mythes de Sud-Américains de Benjamin Perret, personnage incontournable. Là, vous avez quelque chose de Salvador Dali. Là, vous avez le courrier d'Ada, pour pas oublier les origines.
Et est-ce que parmi, dans cette grande bibliothèque, est-ce qu'on pourrait retrouver la trace de Pierre Moulinier, qui est quand même le peintre? Alors, je ne sais pas si on peut le caractériser de peintre surréaliste, enfin, c'est quand même une grande rencontre que vous avez faite dans votre vie.
Oui, on peut l'y mettre, puisque Breton l'a mis dans son recueil Surréalisme et le surréalisme et la peinture, il y est. Bon, là on a José Pierre, écrivain érotique de la génération qui précède la mienne. Là on a quelqu'un qui a traversé sans s'y rester les surréalistes, c'est Jean Doisseau. En fait, c'est Fred II, la Magritte. Là, c'est les Gallimard. Hein. Il doit y avoir Nadja, il doit y avoir les premiers textes d'Aragon, les choses comme ça. Raymond Roussel. Là-haut, nous l'avons passé, c'est Melville. Alors, tout ça est un peu en désordre. Donc, ça, c'est des surréalistes. On va aboutir à une édition, d'ailleurs, fautive de Lautréamont. Ça, c'est l'édition Corti, qui était fautive, qui a été revue, corrigée. Le diable amoureux, et des textes de Soupeau.
Regardez là, les fous littéraires.
Et oui.
Vous êtes dedans?
Non, malheureusement, je n'ai pas l'honneur.
D'André Blavier.
Et là, par contre, ça, voilà, c'est une très belle édition des manifestes. Que, vous voyez dans quel état elle est. Hein, elle a souvent été, c'est l'édition Pauvert, qui a restitué des textes qui étaient dispersés et parfois inaccessibles de Breton, parce qu'il y avait une grande amitié de Pauvert pour les surréalistes et Breton. Là, l'autoportrait de Man Ray, ça c'est...
Il y a de drôles de choses quand même dans votre bibliothèque. Là, je vois un petit crâne d'oiseau, et puis là, au-dessus, je vois une boîte de pâtes lustucrues.
Oui.
Hein, forme nouvelle, rondinelle, coquillage, tiens, cornelle, accordelle et des petites spaghettis.
En attendant de faire mieux, ce sont des textes manuscrits qui ont là-dedans, que j'ai assemblés, c'est des demi-formats. Ça, ce sont des textes plus ou moins du romantisme anglais. Ah si, vous avez quand même un Moulinier. C'est sa biographie par Pierre Petit.
Et à propos de Pierre Moulinier, est-ce que vous auriez Une photographie, une peinture de Pierre Molinier chez vous ?
Mais oui, mais pas du tout de l'époque qui vous intéresse.
Ah, mais moi je suis très ouverte à toutes les époques.
Ben voilà, vous avez le tout premier Molinier ici, paysage de la Genêt, ce pigeonnier. Alors là, il est un peu à l'ombre, mais c'est un tableau déjà d'un excellent coloriste, mais c'est un post-impressionniste provincial. Extrêmement modeste, mais enfin, sentimentalement, c'est un tableau qui m'a été donné par Molinier. Voilà.
Dans la pièce à côté, Jacques Abeille, je crois qu'il y a plein de petits objets, vous êtes un grand collectionneur. Pourquoi vous collectionnez ?
Ça va de pair avec mon sentiment animiste. En fait, toutes ces collections, c'est le sentiment qu'il y a des objets qui sont orphelins et qui méritent d'être réhabilités. Alors là, l'étage supérieur, ce sont des figurines faites par des Africains, qui représentent des choses de la vie quotidienne, et qui sont faites avec des tout petits fours dont ils aménagent très astucieusement le passage, où ils aménagent le passage de l'air, de manière à mettre en fusion. Et je me figure que ces choses qui sont vendues de manière triviale, qui sont faites avec des rebuts de plomberie, vous voyez, les statuettes qui sont plus ou moins dorées sont simplement des robinets de laiton qui ont fondu dans ces fours. Donc il y a des animaux, il y a des personnages, il y a même des petits personnages coquins là qui sont en relation amoureuse vigoureuse. Et puis ceux qui sont en noir, c'est un métal encore moins rechercher, c'est essentiellement ceux qui expriment une fête. Mais il y a des détails qui me touchent. Cette femme agenouillée, en train de s'asperger avec ce à quoi ils ont donné une forme de cendrier, c'est une vasque dans laquelle cette femme se penche et s'asperge les épaules. Je trouve ça très beau. Je la trouve très touchante. Je trouve ça magnifique. Et puis le registre inférieur, ça c'est des choses que je partage avec Pauline, les représentations animalières au rez-de-chaussée, c'est plutôt Pauline qui en est touchée, ça on est d'accord là-dessus, c'est une scène de mythologie, ça. Et puis là il y a une figurine connue des amateurs qui s'appelle la Goulue, vous voyez, est en train de faire le grand écart. Vous allez devoir vous pencher de près. Il faut la soulever. Vous voyez ?
Et qu'est-ce qu'on voit quand on soulève la Goulue en train de faire le grand écart ?
Qu'est-ce qu'on voit si on soulève la jupe d'une femme qui fait le grand écart sans culotte ?
Sans culotte, j'allais dire.
Voilà, on voit qu'elle n'a pas de culotte. Et que par conséquent, se dessine son intimité. Voilà.
Et derrière vous, Jacques Abeille, si vous vous retournez, là, dans ce salon, on a...
Alors, on a une bienfaissue. Les deux peintures qui sont là sont de moi. Ce sont des peintures faites en classe. Ce sont des déchets que j'ai retrouvés dans la poubelle de la classe en fin de journée, que j'ai mis à part, que j'ai laissé sécher. Et j'avais une sommation. Il fallait découvrir quelque chose dans ces taches, dans ces maculations. Donc là, vous voyez, il y a une sorte de torse de femme avec des fesses très épanouies. Et puis là, c'est une scène de plage, où, pareil, avec une baigneuse enthousiaste qui se détend. Et puis d'autres personnages marginaux, ébauchés.
Et nus.
Oui, bien sûr, c'est une conquête infinie, la nudité.
Jacques Abeille, est-ce que vous n'avez jamais cessé de dessiner ? Est-ce que vous dessinez en même temps que vous écrivez ?
Mais ça ne se distingue pas chez moi.
Je crois que cette idée d'être créateur est quelque chose que vous avez peut-être depuis ce moment-là, mais qui en tout cas ne vous a jamais quitté depuis l'enfance. Créer.
Oui.
Alors créer aussi, ça peut être créer des mondes, créer... Vous avez quand même créé une contrée, un pays. Quel serait d'ailleurs... Pourquoi contrée plutôt que pays ?
Un pays, c'est quasiment géographique, ça comporte des frontières. Or, les frontières sont indécises. Je pense que c'est ça que je sens dans contrée. Une contrée qui se caractérise plutôt par son relief, par son climat, par sa végétation, que par des données politiques.
Dans les jardins statuaires, quand on ouvre le livre, il y a une grande carte de cette contrée, donc de ce monde que vous avez créé. Est-ce que vous pourriez nous la décrire ? Le monde tel que vous l'imaginez, il ressemble à quoi ?
Il y a un peu de tout. D'abord la carte. La carte, elle est une œuvre de Pauline que nous avons élaborée ensemble. Je lui dis, voilà, il faut que j'ai ci, j'ai là. Elle a développé cette carte qui me permettait ensuite d'écrire un homme plein de misère parce que je reprenais un itinéraire à travers toutes ces contrées que j'avais imaginées. On lit tout simplement de l'ordre de lecture de gauche à droite. Nous partons donc de l'ouest et l'océan sans fin. Et nous avons, à l'embouchure d'un fleuve, nous avons la capitale d'un empire qui s'appelle Térèbre. C'est dans l'ensemble des contrées. C'est le premier livre dont j'ai écrit une vingtaine de pages et je n'ai pas osé poursuivre. C'est par là que j'ai commencé. Et c'est parce que je n'osais pas commencer que j'ai écrit Les Jardins Statuaires, qui se trouvent à l'autre extrémité de la carte, qui est à l'est. Donc l'ouest, on a deux foyers, l'ouest et l'est. Je me suis aperçu, j'étais convaincu de n'avoir que très peu à écrire sur le thème des jardins statuaires, et ça n'en finissait pas. J'ai été content quand j'ai pu trouver un moyen de n'avoir pas à justifier les origines de ce livre, parce que c'était ça la question qui me travaillait, et en disant que c'est un livre des domaines qui se referme sur une pratique de l'écriture qui a lieu dans les jardins statuaires, ça s'est bouclé comme ça. À ce moment-là, j'ai dit, mais mon vieux, tu es arrivé à faire un bouquin assez épais, tu dois pouvoir affronter l'autre. Et je suis revenu à mon inspiration première sur Térèbre, c'est-à-dire là où les jardins statuaires est un milieu rural, ouvert, avec un grand ciel, de l'air, de la lumière, je prends une ville qui ressemble beaucoup au Bordeaux de mes 18 ans, et qui est un Bordeaux assombri. C'est-à-dire un Bordeaux revu par Kafka et Meyrinck, l'auteur du Golem, encore un livre fondateur. Et j'ai réussi à écrire Le Veilleur du Jour, non sans peine, avec les rebondissements, c'est-à-dire l'annexe du Veilleur du Jour, qui fait un volume de Léobarde, qui sont des petites proses à teneur érotique. Après ça, il m'est arrivé une histoire très curieuse. Un jeune homme, qui se nomme Adam, qui est d'origine belge, m'a demandé de lui faire une fiche de renseignement sur un personnage imaginaire. Cette fiche de renseignement a donné lieu à un personnage du nom de Brice Cléton, qui est à Journelême. Donc, on revient à l'ouest. Et c'est un troisième foyer fondateur. Là-dessus va se produire une grande chevauchée à travers les contrées. Un professeur de Journelême va être enlevé par les cavaliers barbares. Il va descendre le fleuve et la grande plaine des vignes, traverser le désert méridional, il y a deux bandes de désert au nord et au sud, et remonter par la vallée des anciens rois et le fleuve mort. Alors, cet homme, qui est un personnage étrange, amnésique, écrit quand même ce qui lui arrive, qui est assez obscur, et au moment de sa mort, il va léguer ses notes à son fils, que sa mère vient lui présenter. Et en fait, il est dans les derniers moments de sa vie. Il lègue à la mère et au nourrisson qui est dans les bras de cette femme, il lègue la totalité de ses écrits. C'est ce fils, donc, 18 ans après, qui achève de mettre au propre les notes de son père, plus celles d'un homme qui le surveillait tout le temps, qui a recueilli toutes sortes de choses. Ça raconte aussi les circonstances du veilleur du jour. Et en quête de son père, il va partir dans une quête du père qui sera les voyages du fils. Et les voyages du fils, c'est le premier voyage d'un personnage qui s'appellera le voyageur perdu. Donc le voyageur perdu, nous en aurons les carnets de l'explorateur perdu, et ensuite sa biographie écrite par deux amis. C'est-à-dire qu'il y a une double question. Mes personnages sont des êtres vivants avec qui j'essaie de me mettre en paix, donc de mener leur destin, leur vie, dans ce qu'elle peut avoir d'exemplaire ou d'intéressant. Au bout, je me mets à leur service. Et puis, il y a toutes les fantaisies qui me traversent en cours de route. Tout ça finit par se coudre, s'ordonner, avec toujours l'autre obsession qui est « qui a écrit le livre qu'on tient en main ?» Voilà. Mais il y a une nouvelle dimension de ce qui, naguère, s'appelait la science-fiction, qui se fonde sur l'utopie. Hein, c'est une utopie, et je me suis aperçu de manière de plus en plus pressante au fur et à mesure que j'avançais en âge, que ça a la même fonction qu'une utopie, c'est-à-dire d'une part, il y a des possibilités autres que celles dans lesquelles nous sommes enferrés, qui étaient possibles, à condition de justement arrêter l'hétérophobie. Se dire que l'autre a peut-être de la valeur, c'est peut-être essentiel. Que va-t-il nous arriver quand il n'y aura vraiment plus du tout d'autre? Quand le dernier Indien d'Amazonie aura disparu? Quand le dernier Africain capable de comprendre les cultes animistes aura disparu? Quand les Asiatiques des régions contrôlées de Sibérie, du Tibet ou du Nord Vietnam et les Moy, quand tous ces gens-là auront disparu, qu'est-ce que nous allons faire? Qui nous interrogera? Qui nous renverra à un peu de présence et nous restituera à nous-mêmes? Je trouve qu'il y a une perte d'humanité qui est atroce. Et c'est aussi ce chagrin qui m'a poussé. Il y a une vocation d'ethnologue perdu dans ce que j'écris, et je suis visité évidemment par les gens dont j'ai lu les écrits, Alfred Métro par exemple, le problème de l'île de Pâques. C'est du rêve, c'est un fragment de rêve, l'île de Pâques, sous nos yeux. Et combien d'autres, hein. Tout ça, ça fait partie de ce qui m'a constitué, comme ce que je mange, comme ce qui me nourrit, comme l'air. Je ne vis pas sans tout ça. Et c'est tout ça qui s'est métamorphosé, qui a été trituré par l'activité mentale du rêve jusqu'à m'amener à une pensée qui est étrangère à ce monde, qui me quitte avant même que j'aie eu le temps de le quitter.
Jacques Abeille à votre micro, Céline Duchesnet, montage et mixage de Laurent Polleret, bravo. Effectivement, parce que 50 minutes, une sorte d'encyclopédie pratique des mauvais genres, de 50 minutes ce soir, extrêmement impressionnante. Moi j'ai été vraiment frappé par la manière qu'a Abeille de penser son processus créateur à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan organique. Et de même que dans les jardins statuaires, eh bien, les statues poussent comme des champignons, là on a l'impression qu'il est confronté à tout un tas de processus qui sont à la fois bio-intellectuels ou bio-poétiques, et qu'on n'est pas du tout dans, d'un côté, j'irais, un contemplatif qui est une activité intellectuelle, mais une espèce de grand brassage entre les deux. Est-ce que c'est selon vous exact ?
Ah, alors après, je pense qu'il y a tellement de manières de découvrir l'univers de Jacques Abeille que je pense que chacun peut trouver une entrée aussi, mais ça correspond à ce qu'il a pu raconter sur le jardin des femmes, justement, dans les jardins statuaires, le fait qu'on ait à la fois l'art et, je dirais, l'artisanat qui soit mêlé de manière aussi intime et qui, pour lui, est une représentation du monde tel qu'il devrait être vécu. Donc, oui, après, quand on se promène dans la maison de Jacques Abeille, je crois qu'il y a des renvois en permanence sur tous les niveaux, comme ça, le niveau de la pensée, le niveau du corps, le niveau de l'humour aussi, parce que c'est quelqu'un qui est très drôle, et on retrouve aussi ça, notamment peut-être plus du côté de Léo Barthes, cette forme d'humour et d'humanité très forte.
Alors sur le plan de l'écriture, moi j'ai été frappé vraiment en achevant la lecture de son cycle, c'est véritablement le dernier témoin de toute une école littéraire qui pourrait d'une certaine façon partir à la fin de siècle avec des gens comme Vielli-l'Adam. Il y a un côté convive des dernières fêtes et le secret de l'ancienne musique chez Jacques Abeille, avec un style complexe, très inspiré par le latin. Une phrase longue, sinueuse, très armoriée, orfévrée, avec des incises. Et vrai, à un moment-là, c'est le dernier témoin de cette école de la narration surréaliste fantastique dont je citais André-Pierre de Mandiargues. C'est vrai, quand on lit Le Soleil des Loups, Le Musée Noir, on est dans cet univers littéraire d'Abeille, ou aussi Marcel Brion. Marcel Brion, l'homme des escales de la haute nuit, qui fonctionne d'ailleurs avec un imaginaire assez proche de celui de Jacques Abeille. C'est-à-dire d'un côté quelque chose de sauvage, de pulsionnel, d'archaïque, avec des créatures femmes totalement singulières, nocturnes, vénéneuses, prédatrices, et à côté aussi des tribus barbares, et en même temps des cités qui sont des cités savantes, des cités raffinées, et qui sont en permanence aux prises avec la violence des éléments. Je pense que c'est une école d'écrivains qui pensent en permanence à la fois la nécessité de la culture et de la civilisation, et la menace. C'est-à-dire à quel point le naturel, d'ailleurs Jacques Abeille dit dans un entretien récent que la nature est terrible, c'est une marâtre cruelle. La nature est toujours là pour submerger. Je veux dire, c'est vraiment, et c'est pour ça qu'il s'entend bien avec Scoïton, c'est vraiment l'homme des cités submergées, des cités ensablées, des cités disparues. Enfin, il y a là aussi, et c'est presque Lovecraftien, mais d'une manière totalement différente.
Alors moi, ce qui me touche énormément chez Jacques Abeille, alors peut-être une fois de plus, à travers, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de Léo Barthes que de Jacques Abeille, mais c'est la place qu'il accorde aux femmes et le regard qu'il porte sur les femmes, parce que vous parliez de la femme prédatrice, mais dans les romans de Léo Barthes, la femme est la femme qui jouit pleinement de son corps et de façon presque païenne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de morale, il n'y a plus, on jouait avec son corps.
C'est un univers totalement amoral.
Oui, et païen. Et païen dans la jouissance des corps, dans l'innocence sexuelle aussi, qui peut être incarnée par exemple aussi par des chiens, de l'animal de compagnie. Ou alors il y a aussi le chien, on le retrouve aussi dans l'histoire de la bergère. Mais voilà, cette forme d'épanouissement, de jouissance presque païenne, à travers par exemple, on pourrait citer la collection de cartes postales aussi que Jacques Abeille conserve avec ses vieilles cartes des années 80, où on voit des paires de fesses sur la plage qui se reproduisent à l'infini. C'est ça Jacques Abeille, c'est ce mélange des gens avec un style, vous l'avez dit, d'une grande classe, de manière peut-être un peu plus prosaïque.
C'est une œuvre et une nature d'artiste profondément aristocratique, au sens où véritablement il y a la détention d'un secret et la divulgation d'une espèce de science, mais qui ne se fait que, je dirais, avec le mérite d'un lecteur qui va au bout. C'est ça qui est bien en même temps, c'est un parcours initiatique, il faut avoir le courage d'entamer et on vous les recommande. Alors si on doit faire un peu de bibliographie, ma chère Céline, recommandons bien sûr Le Cycle des Contrées, 9 volumes disponibles en très belle édition, donc en grand format aux éditions du Tripode, et puis en folio SF également. C'est intéressant d'ailleurs cette reconnaissance de Jacques Abeille parmi eux de la science-fiction et de la fantasy. Et puis on vous recommande bien sûr, toujours au Tripode, Le Dépossédé, territoire de Jacques Abeille, un colloque qui lui a été consacré avec un inédit et énormément de précision. Et le dernier numéro de la revue La Femelle du Requin, le numéro 50, est consacré en grande partie à Jacques Abeille. Et vous aurez donc là une autre vision du personnage.
Du côté de Léo Barthes, alors je recommande chaudement Histoire de la bergère, qui est sortie en 2002 au Tripode. Donc c'est l'histoire de ce vagabond qui se déplace aussi dans une contrée ancienne et qui croise le destin d'une bergère qui aime offrir son fessier à des touffes d'ortie. Il y a aussi La Demeure des Lémures dont on a parlé, et L'Animal de compagnie, qui est sorti chez La Musardine, où il y a l'existence de Buster, ce chien qui peut changer la vie d'un couple.
Merci Céline, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Claude Nieur, Sien Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnet, François Angelier, vous remercie d'avoir suivi l'émission. Rendez-vous samedi prochain, il sera question de merveilleux scientifiques. Bonne nuit à tous.